Regard sur le judaïsme. Catherine Mann et Simon Martin sur Radio Grand Ciel. Regard sur le judaïsme aux sources de notre foi, aux sources du christianisme. Effectivement, il y a le judaïsme, religion portée par le peuple juif et dont la Bible retrace le destin. Comment une poignée d'hommes et de femmes, un clan mené par Abraham et sa femme Sarah, bouleversa l'histoire de l'Antiquité jusqu'à nos jours et donna, entre autres, naissance au christianisme. Voilà dans un premier temps la question auquel nous tenterons de répondre en compagnie de Catherine Mann. Sans prétendre aucunement être historienne ou exégète de la Torah et du Talmud, c'est une longue pratique de la Bible, une histoire familiale et le désir de remonter aux sources de sa foi qui a conduit Catherine Mann à accepter notre proposition de créer cette nouvelle émission sur Radio Grand Ciel, Regard sur le judaïsme. Bonjour Catherine Mann.
Bonjour, bonjour à tous.
Eh bien, c'est aux sources mêmes que nous remonterons aujourd'hui, au commencement de toute cette aventure spirituelle avec le premier des patriarches, Abraham. En route donc pour la Mésopotamie, il y a environ 1800 ans avant notre ère. Catherine Mann, que sait-on sur le contexte de l'histoire d'Abraham sur la Mésopotamie d'il y a quelques millénaires avant Jésus-Christ ?
A priori, on ne sait que ce qui est écrit dans la Bible. On n'a pas d'autres traces historiques, pas d'autres sources certaines. Alors, on a une petite trace du nom d'Abraham sur une tablette qui aurait été écrite vers moins 2500, ce qui est loin avant l'histoire d'Abraham. Donc, c'est tout ce qu'on a, c'est-à-dire rien. C'est peut-être cet Abraham-là, c'est peut-être un autre. Il faut voir uniquement le contexte dans lequel se présente le livre biblique qui, lui, représente la tradition d'Israël.
Pour faire cette émission, on s'appuyait sur un certain nombre de bouquins, et entre autres, le judaïsme pour les nuls, et ils ont une réflexion intéressante, où ils disent que, même si c'est très loin, il ne faut pas vous imaginer que les hommes d'il y a 2000 ans avant Jésus-Christ pensaient si différemment que nous, et que ce sont des hommes comme vous et nous, et que finalement, tout au cours de ce qu'on va dire, on peut très bien s'imaginer nos contemporains dans des situations semblables.
D'abord, il ne faut pas oublier que quand on parle du judaïsme comme source du christianisme, c'est une chose vraie, mais le judaïsme est toujours vivant aujourd'hui.
Évidemment.
Et il n'est pas question de parler du judaïsme comme d'une antiquité. Et l'Ancien Testament, c'est une source qui est toujours la référence pour des juifs aujourd'hui contemporains. Donc effectivement, pour eux, c'est la pensée d'aujourd'hui qui est dans ce livre-là. Et dans les références, effectivement, historiques et archéologiques, qui parfois sont difficiles à combiner avec le texte biblique, mais bon.
Voilà la parenthèse refermée. Retournons en Mésopotamie, donc au temps des Sumériens. Alors eux, on sait certains éléments sur leur civilisation.
Oui. Grâce à Noah Kramer, il y a toute une recherche qui a été faite et où on a découvert que en Mésopotamie, depuis 5000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà eu une civilisation très... 3000 ans, 5000 ans à partir d'aujourd'hui, mais une civilisation qui était à l'origine peut-être de toute la civilisation mésopotamienne. Et y compris à l'origine de la Bible jusqu'à un certain point, parce que à Sumer, il y avait déjà le mythe du déluge, il y avait déjà le paradis et tout ce que ça représente comme idéal, il y avait déjà le livre de Job, par exemple, sous une autre forme, mais déjà le problème de la souffrance était évoqué. Là, les livres de la sagesse et des proverbes, ils y sont déjà. La première foi dans la résurrection est déjà à Sumer. Donc, on se dit, ils ont déjà, je dirais pas tout inventé, mais finalement, les humains, ils sont là depuis des milliers d'années. Et La tradition, elle est là.
On ne part pas de rien, quoi.
On ne part pas de rien.
On ne part pas de rien, bien sûr. Ouais.
Et c'est assez impressionnant de voir que, justement, le judaïsme s'inscrit dans un fleuve, vraiment, de traditions qui viennent un peu de partout. Ça ne tombe pas du ciel sur rien. Par contre, il y a du recréé, il y a du renouveau et du spécifique à partir de l'humain. Mais c'est effectivement, le judaïsme n'est pas hors sol, c'est quelque chose qui est très très enraciné dans l'humain, avec du préhistorique et un préhistorique qui finit par se découvrir aussi avec les tablettes de Sumer, où on retrouve finalement une intelligence incroyable déjà.
Alors, il y a eu, pour en venir à Abraham, il y a eu une révélation à un moment donné,
voilà.
Une révélation spirituelle d'un patriarche, d'un chef de clan, d'un chef de famille.
Hein, oui, je crois qu'on peut dire plus chef de clan, chef de famille. C'est pas un peuple. Hein,
Et c'est la première révélation qui va mettre en marche le peuple juif. Après, des révélations, la Bible est faite de révélations, en fait.
Oui, mais encore une fois, révélation... Vous trouverez toujours des gens pour dire qu'il n'a pas eu de révélation et que ça commence en fait à Moïse. Mais vous trouverez aussi dans le judaïsme plus orthodoxe la foi, effectivement, dans l'illumination d'Abraham comme père de toute la foi biblique.
Oui, parce que pour ne pas oublier notre objectif, qui est bien sûr de comprendre la foi juive, il faut bien dire qu'Abraham, c'est le premier patriarche, donc tous les juifs descendraient d'Abraham quelque part. En tout cas, symboliquement.
Symboliquement.
Bien sûr, symboliquement, j'entends.
Restons-en bien au symboliquement.
Bien sûr,
parce qu'effectivement, tout
mais c'est
ça,
important. La figure d'Abraham est principale, quoi. Fondamentale.
L'unité, la racine remonte à Abraham.
Remonte à Abraham, oui.
Ça, c'est le père fondateur. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il se situe en Mésopotamie, mais en fait, il en sort. Si vous faites des mots croisés, vous connaissez bien. Toujours quand il y a deux lettres dans la grille, comme on dit, en chaldé, vous savez que c'est Ur en chaldé, donc et c'est ce mythe, mais en fait il est parti de là. Alors on pense qu'il a commencé une migration. Non seulement c'est une famille, c'est un clan, mais c'est un clan de bergers nomades, quoi. Donc ils sont habitués à se déplacer tout le temps et ils ont dû fuir en fait des invasions barbares. Les Élamites, dont la Bible parle souvent, quoi. Et c'est une des premières sources de disparition de la civilisation sumérienne. Mais voilà, les clans ont commencé à fuir. Et c'est, non seulement c'est déjà l'illumination qui commence là, mais aussi les migrations.
Les migrations, ouais, la fuite et puis...
les habitudes de
la mise en marche, la mise en marche, voilà. En tout cas, d'un peuple...
Et c'est intéressant si on se pose la question, et nous, chrétiens qui venons de ça, qu'est-ce qu'on en tire comme...
Ouais.
Comme modèle de foi, c'est la capacité à se déplacer.
Ouais. Et alors, pour la première fois, apparaît le nom de Canaan aussi, puis de cette fameuse terre promise qui va... On va en reparler forcément tout au long de l'histoire
promise,
du judaïsme,
c'est évident. Hein. Aujourd'hui, hein,
et on en parle toujours aujourd'hui. Ouais. Et là, c'est la première fois qu'elle apparaît.
Oui, c'est la première fois. Et on peut se demander pourquoi cette terre est tellement... promise, bien sûr, par Dieu, mais elle est promise comme une terre riche, fertile, source d'abondance, etc. Il faut se rappeler que la Mésopotamie, donc qui sort du golfe Persique et qui remonte en croissant, on appelle le croissant fertile, ça redescend ensuite le long de la côte méditerranéenne, le long du Jourdain, et ça descend jusqu'au Nil, jusqu'en Égypte. Donc on a vraiment tout un croissant de terre que tout le monde
a convoité.
A envie de... Ouais.
Parce que c'est effectivement très fertile, quoi. Hein.
Parce que vous avez tous les grands fleuves et toutes les irrigations et Canaan est juste au milieu. Alors, c'est non seulement intéressant comme terre sur le plan de la richesse des pâturages, mais c'est aussi un lieu de croisement des peuples commercialement parlant. Donc, ouais. Aussi, c'est un point stratégique. On a envie
là, c'est là que l'agriculture est née. Enfin, c'est pas rien, quoi. C'est un...
En Mésopotamie, surtout. Oui,
c'est le centre du monde de l'époque, en tout cas.
Probablement. Pour nous, symboliquement aussi, puisque l'Éden, le jardin d'Éden, le paradis, il est quand même situé en Irak, enfin, quelque part par là. Ça reste le mythe de cette richesse des fleuves et de cette... Mais où sont les pays les plus riches pour le moment? Ils sont quand même pas très loin de cette zone-là, avec le pétrole et autres. Donc, c'est un des mystères, un peu des symboles de notre civilisation, d'avoir une zone comme ça qui... Canaan, elle, malheureusement, a un point stratégique qui est aussi d'une fragilité terrible, parce que vous avez ensuite, du nord, les descentes, et du sud, les remontées d'invasion. Donc... ce petit pays est toujours sur la brèche, en train d'être envahi par l'un, par l'autre.
Oui, on le verra dans des émissions ultérieures. En effet, il est vraiment aux confluences de grandes puissances géographiques.
Comme aujourd'hui.
Comme aujourd'hui encore, oui. La Bible nous raconte-t-elle sur Abraham? Il a cette révélation, il part avec sa femme,
Sarah, avec ses fils, ce troupeau. Mais la Bible raconte surtout la vocation, les vocations d'Abraham, c'est ça qui est intéressant. Parce que comme on ne connaît pas vraiment une histoire, il faut se demander, mais à quoi sert-il finalement cet Abraham? Et c'est lui qui va commencer... à faire un lien entre Dieu et la terre de Canaan. Alors, il y a dans la Bible plusieurs appels. Le premier, c'est peut-être le plus connu, quand je vous lis le début du chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, « Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. » « Je veux faire de toi une grande nation, te bénir et rendre grand ton nom. Tu seras une bénédiction. Je bénirai qui te bénira, qui te méprise, je maudirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il faut se rappeler que tous ces textes ont été écrits longtemps après l'histoire d'Abraham, et que ce qui est dit là, c'est que le judaïsme qui vient de cette alliance, déjà de cet appel divin, n'est pas que pour la famille d'Abraham, mais que toutes les nations de la terre devront retirer une bénédiction ou voilà, un lien avec Dieu à travers Abraham.
C'est la première alliance. On va en retrouver après avec Moïse.
À mon sens, il y a déjà une alliance préliminaire, bien qu'elle ne porte pas vraiment le nom d'alliance, mais avec Noé,
oui.
Il y a déjà l'arche dans le ciel, l'arc-en-ciel. Et donc il y a déjà une forme d'alliance avec Noé qui est peut-être, alors si on peut dire, la première alliance avec Noé, elle est plus sur le plan humain, organique. Physiologique, enfin, c'est-à-dire qu'il y a une alliance, une spécificité humaine. Ils ne sont pas comme les animaux, ils sont responsables des animaux, de la planète, etc. Avec Abraham, l'alliance, elle parle déjà de peuple. Elle parle déjà d'autre chose. Donc de
le
famille.
Le peuple élu, il y a l'idée du peuple élu qui apparaît à ce moment-là, alors.
Oui, alors tout dépend de ce qu'on va véhiculer au cours de nos émissions avec l'idée d'élection. Un peuple élu, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que c'est un peuple supérieur. Élection, c'est... On est en plein dedans, les réflexions, mais c'est choisir.
Choisir, oui.
Il est choisi pourquoi ? Mais là, on a la réponse. C'est pour que toutes les familles de la terre soient bénies à travers Abraham. Donc, il faut bien commencer par un endroit pour apporter quelque chose de nouveau. Alors il semble que voilà, on met sur Abraham cette responsabilité de transmettre quelque chose de nouveau à l'humanité qui était déjà en alliance avec l'arche de Noé. Recommence. Mais les alliances, il y en a plein, mais c'est chaque fois sur un niveau différent.
Alors Abraham est donc promis à une grande descendance. Quels sont ses premiers enfants une fois qu'il arrive à Canaan ?
Ben, le premier, c'est Ismaël. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans la Bible. Normalement, c'est l'aîné qui hérite de la bénédiction et des responsabilités. Mais très souvent, entre deux frères, l'aîné et le cadet, ça va se retourner. Et ici, c'est le cas. L'aîné, c'est Ismaël, mais il n'est pas le fils de la femme d'Abraham, il est le fils de sa servante parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant à ce moment-là. Alors Ismaël, ben on sait bien ce qu'il est devenu, c'est le père, comme on dit, le père fondateur des Arabes.
Et de la religion islamique plus tard, quoi.
Et plus tard de l'islam.
Ce qui prouve bien la source commune du judaïsme et de l'islamisme. Mais ça, c'est pas contesté.
Hein, c'est le fils aîné. Mais le problème, c'est que les rapports fraternels entre le fils aîné et le fils cadet sont pas évidents, comme peut-être dans beaucoup de familles.
Alors le fils cadet, c'est
Isaac.
C'est Isaac.
Isaac, qui est surtout connu pour le sacrifice, c'est le mot qu'on emploie en français, que dans le judaïsme on dit plutôt la ligature. C'est toute une histoire très symbolique, parce que finalement il est le préféré, puisqu'il est le fils de sa femme, il est le garant de la succession, c'est le fils de la promesse aussi, c'est lui qui va devoir porter. Et vous avez cette étrange chose qu'on appelle le sacrifice d'Abraham. Dieu lui dit... Donne-moi ton fils. Et c'est alors qu'est-ce que ça veut dire finalement ce sacrifice ?
Oui, c'est une histoire terrible qui a marqué les esprits.
Ça fait couler beaucoup d'encre. On va pas donner d'explication, parce que tout le monde y projette psychanalytiquement tout ce que ça peut vouloir dire. Alors théologiquement, c'est plus important finalement parce que la Bible c'est un livre de théologie qui nous apprend à connaître Dieu dans son rapport avec l'humanité. Dans un certain rapport avec l'humanité, qui est celui de la foi. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi ? Le sacrifice du Fils, c'est vraiment l'épreuve de la foi. Qui est-ce que tu préfères ? Dieu ou le Fils que Dieu t'a donné ? si Dieu t'a donné un fils, puisque c'est avec le miracle de Sarah qui avait largement dépassé l'âge de faire des enfants, et malgré tout, il faut préférer Dieu, il faut faire confiance, puisque c'est Dieu qui donne le fils, Dieu le reprend. C'est une sorte d'épreuve de la foi qui marque profondément toute la Bible et qui sera surtout reprise par saint Paul dans sa lettre aux Romains. Ça impressionne jusqu'aux racines du christianisme. D'ailleurs, les pères de l'Église chrétienne ont souvent repris le sacrifice d'Isaac comme Isaac préfiguration du Christ. Dieu qui donne son fils, qui le laisse mettre à mort. Cette affaire de foi, elle va traverser toute l'histoire biblique jusqu'aujourd'hui. C'est toujours la question. L'épreuve de la foi, on a peut-être dans nos vies des choses un peu parallèles, quoi. Il faut sacrifier des choses au nom d'autres choses plus importantes. On est devant une décision à prendre. Laquelle est-ce qu'on va prendre ?
On comprend l'importance symbolique d'Abraham, évidemment, et puis de sa descendance, Jacob et Joseph.
Oui, Jacob, qui a énormément d'importance, parce que c'est lui qui aura le combat avec Dieu, d'où vient le nom d'Israël. Il va changer de nom parce qu'il aura combattu avec Dieu. C'est la signification du mot Israël, qui a combattu avec Dieu. Donc, après... Ce nom, évidemment, il marque toute l'histoire, puisque encore aujourd'hui, c'est une espèce de relation avec Dieu qui est étrange, ce combat avec l'ange. C'est un nom qui vous est donné, être capable de résister à Dieu, de faire face, chacun y voit ce qu'il veut. Mais le nom d'Israël reste tellement fort, effectivement, qu'on... Dans la Bible, après, on parlera des fils d'Israël, des Béné Israël.
Donc, on sent déjà, vous allez me dire si je me trompe, mais une particularité aussi, d'un courant du judaïsme, c'est-à-dire une façon d'aborder Dieu qui est peut-être très différente du christianisme, dans le sens où Dieu, on peut l'interpeller, on peut voir lutter avec lui véritablement.
Déjà avec Abraham, si vous remontez, alors on ne peut pas non plus relire toute la Bible, mais enfin, dans l'histoire d'Abraham, il y a cette fameuse discussion au moment de Sodome et Gomorre, enfin, où Abraham...
Marchande, presque.
Marchande, pied à pied pour le salut de quelques-uns. Et donc, effectivement, c'est une religion de la présence de Dieu et une présence par la parole, sous toutes ses formes.
Mais une présence qui paraît tellement, parfois tellement réelle et loin des conceptions compliquées de la Trinité, des choses comme ça. Pour le coup, on a en lisant en tout cas les débuts du judaïsme, l'idée d'une présence réelle, concrète, qui peut aider, qui peut punir, qui intervient
tout le temps, tout le temps présent. Ça ne veut pas dire que dans la Trinité, ce n'est pas la même chose, mais effectivement, quand on prend les hautes théologies chrétiennes, on a du mal à faire
très compliqué,
le lien avec la vie courante. Mais là, on est encore dans des choses très élémentaires, mais en même temps qui sont à la base de tout, donc... Comment dire, qu'est-ce que Abraham a déjà eu comme chose importante? C'est l'idée d'un seul Dieu.
L'idée d'un seul Dieu, évidemment, ouais. Qui contraste avec la plupart des religions dans la région, quoi.
Oui, qui c'est évidemment. Du polythéisme. Alors effectivement, comme dit Jean Bottero, on trouve déjà ce qu'on appelle énothéisme, c'est-à-dire un Dieu, mais c'est le Dieu de ma nation.
Un Dieu supérieur, bien sûr.
Alors c'est ce qu'on va trouver en Égypte avec Joseph, qui va lui être émigré de force en Égypte, etc. On connaît bien l'histoire de Joseph, mais en Égypte, on a eu effectivement à Kénaton avec le... Énothéisme, en tout cas, un seul Dieu. Maintenant, ça se discute. Est-ce qu'Abraham a eu monothéisme ou énothéisme? Certains diront que c'est jamais que l'élaboration de l'idée d'un Dieu de clan qui devient un Dieu de nation, de pays, et que c'est beaucoup plus tardif, l'idée de monothéisme. Mais les discussions sont tellement abondantes sur tout ce que nous racontons qu'effectivement, on peut... passé toute sa vie à essayer de réfléchir, d'autant que l'archéologie apporte toujours des nouvelles notions. Mais nous sommes donc arrivés à Joseph.
Voilà, quelques mots sur Joseph, qui a aussi énormément marqué même l'histoire de l'islam. Hein, on parle beaucoup de Joseph.
Alors, c'est un récit qui prend évidemment beaucoup de place dans la Bible, ouais. Et c'est un récit, encore une fois, qu'il faut lire aussi sur le plan symbolique.
Très très beau récit, hein, de trahison et puis de pardon également. Ouais.
Et le pardon, ouais. Voilà, c'est-à-dire, c'est... Mais un pardon quand même assez humoristique, parce qu'avant de...
Rappelez-nous l'histoire en quelques mots. Pour.
Joseph était le préféré de son père, et il a eu... Il était ce qu'on appelle dans la Bible l'homme au songe, c'est-à-dire qu'il était un peu prophète, il avait des rêves prémonitoires, et dans un de ses rêves, il voit des gerbes, c'est-à-dire il imagine ses frères venant se prosterner devant lui, et il raconte ça à ses frères le lendemain matin de son rêve, et à ce moment-là, évidemment, une jalousie terrible qui prend les frères, qui... L'abandonne au désert et le vend à des marchands. Enfin bref, le voilà prisonnier en Égypte. Et c'est là que toute l'histoire vient d'une famine en Canaan. Et donc ces fameux frères sont obligés d'émigrer, poussés par la faim. C'est toujours la même chose, c'est poussé par la faim. Et à ce moment-là, Joseph, lui, il est devenu le bras droit du pharaon. Et c'est ce qui, il pourrait effectivement les accueillir à bras ouverts en disant « venez ». Mais non, la Bible est très, très comique pour moi, parce qu'il ne se fait pas reconnaître tout de suite. Et il les fait tourner en bourrique pendant un petit moment avant de donner le pardon. Et voilà, c'est très humain.
C'est très humain, oui.
Finalement, effectivement... Tout le monde se réconcilie, et il y a quand même des racines égyptiennes très fortes qui sont installées déjà dans la mémoire du peuple juif. Quoi.
Et ça, nous le verrons dans une prochaine émission, car le temps tourne et on arrive à la fin de cette émission. Et donc, on va laisser le peuple d'Abraham en Égypte. Et nous retrouverons le mois prochain pour la suite. Alors avant de nous quitter, Catherine Mann, vous avez quelques livres à nous présenter qui ont bien sûr servi à faire cette émission.
Je voudrais inviter à lire justement la racine historique d'un livre de Noah Kramer qui s'appelle « L'histoire commence à Sumer ». Et qui est très simple à lire, et qui raconte toutes les découvertes de ce que nous connaissons sur cette civilisation.
Et c'est chez Flammarion.
Chez Flammarion, voilà. C'est un petit livre de poche, mais ça vaut vraiment la peine de le lire. Donc Noah Kramer. Sinon, un livre assez ancien de chez Payot, qui s'appelle « Le judaïsme » d'Isidore Epstein, alors qui est... une des références, disons, du judaïsme orthodoxe sur la foi juive. Donc, petite bibliothèque Payot. Et plus récent, un petit livre d'une grande spécialiste, Mireille Hadass-Lebel, « Le peuple hébreu entre la Bible et l'histoire ». Alors, Gallimard découverte.
Et moi, je citerai « Le judaïsme pour les nuls » dans la collection que vous connaissez bien et qui est à mettre entre toutes les mains. Merci à toutes et à tous, merci de votre écoute, et je vous dis au mois prochain. Bye.